Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter avec des sons et du sens.
En direct du studio 511, une émission réalisée par Flora Bernard, assistée de Lucie Spindler, avec à la technique aujourd'hui Henri Bérec et Clément Vuillet.
Au sommaire cette semaine, la justice restaurative, une autre vision de la politique pénale et retour dans la 13e circonscription des Hauts-de-Seine.
Ce que ça a aidé, c'est d'avoir réussi à enlever une étiquette.
Étiquette de...
Bien, d'assassin.
Les Hauts-de-Seine, un balcon sur Paris, un département où l'avenir se conjugue au présent.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Une justice restaurative pour une autre vision de la politique pénale et le programme des 13 candidats de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine. Oui, c'est le programme du jour et on se demande si ce n'est pas aussi la politique qu'il va falloir restaurer pour une autre vision de la citoyenneté et de l'engagement. Après l'affaire Fillon et dernièrement l'histoire tordue de Richard Ferrand, il y a du boulot pour redonner confiance dans la vie démocratique. Et après la déconfiture de la gauche qui se tire dans les pattes incapable de s'unir aussi. Il va falloir restaurer la politique. Et le chemin vers les urnes aussi pour la génération ingouvernable quand la loi Travail 2 va passer par ordonnance. Pour la génération climat aussi quand Donald Trump dénigre l'accord de Paris dans une fuite en avant climaticide. Alors haut les cœurs, ouvrons des écoles et fermons des prisons. Justice restaurative et 13e circo des Hauts-de-Seine, c'est comme un bruit qui court jusqu'à 17h sur France Inter.
Antoine Chao.
Charlotte Berry.
Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Faire se rencontrer des victimes et des auteurs de délits, voire de crimes, cette pratique très développée au Canada, mais extrêmement rare en France, porte un nom.
La justice restaurative.
Cette justice restaurative, elle nous vient de pratiques ancestrales. C'est une rencontre, c'est un dialogue.
Je voulais vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui avait fait qu'un jour ils commettent l'irréparable.
La garde des Sceaux, Christiane Taubira, y est favorable.
La dignité doit rester au cœur de la pénalité. La dignité de la victime. La dignité du condamné qui doit pouvoir réintégrer le corps social.
J'ai la sensation d'être libre alors que je suis incarcéré parce que j'ai pu réintégrer la société en un sens.
Introduite en France par la loi du 15 août 2014, la justice restaurative mise sur les rencontres entre détenus et victimes pour apaiser les souffrances et restaurer le lien social. Une expérience bénéfique pour tous, car aussi longue soit la peine, les détenus ont vocation un jour à réintégrer notre société. Et si la prison abîme l'homme, le dialogue avec les victimes, lui, restaure l'humanité. Un préalable essentiel pour ne plus recommencer. La justice restaurative, c'est un nouveau nom pour une très vieille idée. Une pratique ancestrale réintroduite dans le monde anglo-saxon dans les années 70 et expérimentée en France, à la Maison Centrale de Poissy, depuis 2010. Aujourd'hui inscrite dans le marbre de la loi, elle offre une autre vision de la politique pénale, une autre vision que l'illusion du tout carcéral. Direction donc Vitry-le-François, dans la Marne, à la rencontre d'Alain, qui a tenté l'expérience.
Les fenêtres sont grandes ouvertes parce que il n'y a pas la clim et il fait bien chaud aujourd'hui. Vous n'êtes jamais venu à Vitry-le-François?
Non, c'est la première fois.
Vous découvrez. En place de la gare, je travaillais ici, à l'ESAT. C'est un centre d'aide par le travail. On n'est pas loin de chez moi, là.
Un quartier résidentiel?
Oh, résidentiel, non. C'est un quartier populaire, bon. Hein. Après, nous, ça fait combien d'années qu'on habite là? 30 et quelques années. Donc, je suis Vitria 200%. Mon épouse, Sylvie.
Bonjour. Bonjour, madame.
C'est là que je suis toute la journée.
Ouh là là !
C'est
un collectionneur de voitures, de vélos,
ouais.
Miniatures.
De miniatures. Bon, spécialisé vélo. Je suis dans le vélo, dans le sport.
C'est des vitrines et des vitrines entièrement remplies de miniatures.
Toute cette partie-là, c'est le Tour de France, en fait. Je m'appelle Alain Guiloni, j'ai 66 ans et ancien éducateur avec les handicapés mentaux. Alors ce qui est arrivé, bon, en fait le drame qu'on a vécu Sylvie et moi, c'est que notre fils Fabien, bon, il avait 20 ans, il venait d'avoir le bac quelques mois plus tôt et il venait d'entrer à la fac de sport, donc à l'ISTAPS à Reims, et il habitait bon depuis le début octobre là-bas. Un mardi du mois de novembre, le 21 exactement, il sortait de l'ISTAP où il avait une réunion d'athlètes. Et en sortant, donc, il avait l'habitude d'aller manger à un petit restaurant universitaire sur Reims. C'est un quartier qui ne pose aucun problème particulier. Mais malheureusement, il y avait un jeune qui sortait de prison quelques mois avant. Fabien se retrouvait là, attendait à la sortie de ses copains de Vitry pour manger ensemble le soir. Il était en avance et ce gars-là est tombé sur lui et pour un racket de Walkman, sans que notre fils comprenne, il lui a mis une balle dans la tête. Et il a été enterré une semaine plus tard, quoi. Donc, 20 ans, la vie lui tendait les bras, quoi. Et là, le monde s'écroule.
C'était votre fils unique ?
C'était notre fils unique, oui. Ça fait déjà 21 ans et bon, en fait c'est loin et puis c'est pas loin. Nous on a la perpète là. Nous on nous demande pas quand est-ce qu'il reviendra. Le jour où il a été assassiné, la page elle s'est tournée et il reviendra jamais à la maison. Alors que le meurtrier, ben un jour ou l'autre il se retrouve en liberté. Ce jeune homme là, bon Fabien avait 20 ans, lui il avait 21. Il a été condamné à 20 ans, dont les deux tiers incompressibles. Donc ça voulait dire qu'il allait passer au minimum 14 ans en cellule. Alors aujourd'hui, il est libre, hein, il a été libéré au bout de 15 ans. C'est quelqu'un bon qui, quelque part, on a mis un voile dessus, quoi. Il nous intéresse pas, il nous a cassé notre vie. Enfin, c'est ce qu'on ressent encore aujourd'hui, quoi. Je souhaite ne plus jamais avoir à le rencontrer et à entendre parler de lui. C'est comme ça, hein. Quand il est sorti du palais de justice à Reims, il était en colère. Et ce qu'il a dit, bah pour me venger quand je ressors, j'en claque un. Bon, il ne l'a pas fait. C'est déjà bien pour lui. Mais vous voyez, quand un jeune comme ça se prend une peine de 20 ans pour un acte aussi grave que ça, ça veut dire quand il sort, il n'est pas calmé, il n'a pas compris. Il a besoin de se faire entendre encore la réalité de la vie, quoi.
La justice restaurative, au travers des mesures qu'elle met en œuvre, offre aux protagonistes du crime, les auteurs, les victimes, leurs proches, un espace de dialogue, un espace de parole sécurisé qui leur permet d'exprimer leurs émotions, leurs ressentis, leurs attentes, leurs besoins, que le procès pénal n'a pas pu prendre en compte. Les questions du pourquoi, du comment demeurent effectivement essentielles.
Et alors du coup, vous, c'est en 2014 que vous avez été à la maison centrale de Poissy pour rencontrer trois détenus.
Moi, ça a été un souhait de m'engager dans cette démarche-là, justement, parce que je voulais entendre, comprendre et dire un certain nombre de choses. Donc tout ça, au fil du temps, le recul le permet. Ça a eu lieu en mars 2014, donc 5 lundis à la centrale de Poissy, en sachant que ça serait pas le meurtrier de notre fils, parce que ça c'est quelque chose qu'aujourd'hui on estime encore insurmontable. Autant de se retrouver en face de meurtriers d'autres personnes, mais pas de notre drame à nous. C'est un cap qu'on ne peut pas passer, vous voyez, qu'aujourd'hui je ne pourrais pas encore passer. Le premier jour, donc quand nous on est arrivés les premiers, on était installés autour de cette table ronde, donc il y avait encore leur place. Donc quand ils sont arrivés, alors, le premier qui arrive... En plus, il était blessé, il arrivait avec une canne et puis il tirait la jambe. Donc, de ce côté-là, ça nous a impressionnés aussi, parce qu'on s'attendait à voir des montagnes, quoi, des gens. Et puis, en fin de compte, non. Alors, après, bon, chacun a pu se présenter, chacun a pu dire qui il était, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui lui est arrivé. Et puis, de leur parler, nous, de notre vie au quotidien. Vous voyez, les meurtriers avec lesquels on a pu discuter, eux nous disaient que... Au bout d'un certain nombre de temps qu'ils étaient en prison, ben quelque part, ils oubliaient un peu ce dont pourquoi ils étaient là. Ils étaient là. Parfois, c'était pas loin de l'affrontement verbal. Je sais qu'il y a un moment, un des détenus qu'on avait en face de nous se lève presque en colère et puis dit « Mais c'est moi la victime !» Alors là, je vous assure qu'il y a eu un tir croisé des trois que nous étions, avec les deux dames qui m'accompagnaient, en lui disant, mais attendez, là, faut pas retourner les rôles. Vous, vous aviez le choix. Nous, on n'a pas eu le choix. Nous, on a subi. Le lundi d'après, il arrive en courant. Il avait travaillé. Et les propos qu'il tenait ont quand même bien évolué. C'est un petit peu ce qui nous intéressait aussi, de leur faire comprendre, leur expliquer ce qu'on vit. Que nous, la plaie ne se referme jamais, il y a toujours des choses qui nous rappellent ce qui nous est arrivé. Et de faire en sorte que le jour où ces gars-là sortent de prison ne recommenceraient pas. Ce qu'on leur a dit, est-ce que ça a suffi? Mais ils nous ont tous promis, presque juré, qu'ils ne recommenceraient plus. Quoi. Après, la vie, c'est malgré tout des humains. C'est aussi ce qu'on en a ressorti. Et que tout était possible.
Vous arriviez à les voir comme des humains et pas juste comme des meurtriers?
Oui, il faut le dire comme ça. C'est un tournant dans la vie, ça. C'est compliqué. Parce que quand on l'explique aussi à des amis, à des collègues, ils disent « Ouh là là, moi j'aurais jamais pu faire ça ». Après, ils ont jamais vécu non plus un drame tel qu'on l'a vécu, nous. Mais ça surprend quelques-uns, certains comprennent, d'autres comprennent pas. Ils disent « Mais pourquoi ? Ça t'a amené à quoi ?» Ben, ça a amené à comprendre. Et en tout cas, ça les a marqués. Ça s'est ressenti au fil des séances par rapport à leur comportement, qui s'est beaucoup apaisé. Moi, vous voyez, où on se retrouvait dans une salle en haut quand on arrivait, et je m'étais aperçu à un moment, à travers une fenêtre, qu'il y avait la cour de promenade. Et puis à un moment comme ça, au début d'une réunion, d'un lundi, où je leur dis, vous allez voir comment Roméo il va arriver, et vous allez voir, vous allez être surpris. Puis quand ils l'ont vu, au niveau de son habillement et puis de sa coiffure, il y avait vraiment de l'originalité.
C'était mieux en beauté pour nous revoir.
Tout à fait, oui. Mais il y a eu un changement de comportement. Donc, rien ne peut être négligé. Et rien ne doit être mis de côté. Et c'est quand même l'élément clé nous, dans ce qui nous a poussé à participer à ces rendez-vous de justice restaurative. C'est un peu une mission, vous savez, que un bon nombre de familles de victimes ont quand même dans l'esprit. C'est pas un devoir, mais presque, vis-à-vis de la société, par rapport à notre vécu, pour que les autres ne subissent pas ça. Il faut se donner les moyens. Alors, la justice restaurative en est un. C'est un moment de vie qui restera gravé à tout jamais.
Non, on va sur la terrasse, peut-être...
C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour. Alors, j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur.
Des hauts murs gris, des grandes fenêtres avec des barreaux. On arrive devant une grande porte cochère. Entrée, maison centrale Poissy, située à 30 mètres. Et voilà l'entrée. Des drapeaux français, européens.
Je te fais après là.
Bonjour, j'ai rendez-vous avec Madame Lorenz.
Ok,
par là ?
Voilà, par là.
Merci.
De rien.
Bonjour, oui. On est où du coup ici ?
Alors là, on est au PCI, donc le poste de contrôle et d'information qui est l'entrée pour accéder à la détention. Donc c'est là où on fait les contrôles de sécurité.
Vous, vous êtes...
Moi, je suis Madame Lorenz et je suis la directrice en charge des activités du travail et de la formation professionnelle de la maison centrale de Poissy.
Il y a combien de détenus ici ?
230 depuis donc hier, puisqu'on a reçu 3 arrivants.
Et c'est quel type de peine ?
Des très longues peines. Minimum 20 ans de réclusion criminelle.
Désolé de t'embêter. Hein.
Et du coup, c'est ici que vous avez expérimenté pour la première fois les rencontres détenus victimes ?
C'est ça, tout à fait, en partir de 2010.
Tu composes tout dans les bacs ?
Oui.
Bonjour Marie.
Donc là, on est au niveau de la zone accès parloir pour les détenus.
Bonjour, monsieur Lorenz. Très
bien.
Allez, vous.
Bonjour.
Ok, super. C'est le bâtiment d'hébergement. Il n'y en a qu'un.
Donc c'est là où il y a les cellules.
C'est ça.
Le bâtiment à tous les postes, s'il vous plaît, pour le premier étage.
Les mesures donc, de justice restaurative, ça a pour objectif
C'est pour qu'ils se rendent compte que ce qu'ils ont fait a eu un impact donc, vis-à-vis des personnes. Alors, il faut savoir qu'en France, les détenus ne rencontrent pas leurs propres victimes. Ils rencontrent des victimes d'autres auteurs, mais de faits équivalents. C'est-à-dire, par exemple, un détenu qui sera incarcéré pour des faits donc de meurtre, en face, il va se retrouver avec la victime collatérale, donc l'épouse de quelqu'un qui a été tué, par exemple. Les rencontres des détenus victimes, ce sont des temps de relations humaines. Nous, on voit en tout cas l'impact positif que ça a sur les personnes détenues qui participent à ce dispositif.
Du coup, il y a quand même un choix attentif des détenus.
On choisit donc des personnes déjà qui ont bien évolué au niveau de leur parcours d'exécution de peine, qui ont accepté leur incarcération, qui ont reconnu les faits, qui ont commencé à travailler même sur leur passage à l'acte, mis en place même des suivis psychologiques, enfin en tout cas un certain nombre de choses en place. On est vigilant sur le choix de ceux qui participent.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse là, je passe à l'extérieur.
Ok, ça marche.
D'accord. Ça va ?
Oui, oui.
Fatigué ? Comment ça se fait ?
J'ai des études, donc j'ai du travail en retard. Donc je me suis couché assez tard.
Vous faites des études de quoi ?
Philosophie.
Vous vous appelez comment ?
Thomas.
Vous avez quel âge ?
42, bientôt 43.
Vous êtes ici à Poissy depuis combien de temps ?
Depuis 2003.
14 ans. 14 ans. Vous en avez encore pour longtemps ici ?
J'ai pris perpète, donc bon, ça ne finit pas.
Vous avez été condamné pour quoi ?
Pour assassinat.
Vous avez participé à ce qu'on appelle les rencontres détenues victimes, qui sont en fait une mesure de justice restaurative. Qu'est-ce qui vous intéressait dans le fait de rencontrer des victimes ?
C'était la démarche. C'était peut-être pouvoir faire des choses qui ne sont pas possibles de faire dans un parcours judiciaire classique. À partir de ces rencontres, j'ai pu le construire autrement. Ça compte beaucoup le regard, surtout de gens concernés. Quand on porte un regard humain sur vous.
Quand vous dites que vous avez pu vous construire autrement ?
Autrement qu'un criminel. Moi-même, j'ai eu la sensation de pouvoir aider en répondant à leurs questions et je crois que ça m'a fait du bien aussi de me dire que je pouvais aider en dépit de ma situation et de ce que j'avais fait.
Qu'est-ce que vous avez pu leur dire qui les a aidés à votre avis ?
Que il n'y avait pas de réponse à une question commençant par pourquoi. Vous pourriez faire tous les recoupements possibles, vous n'en finiriez pas. C'est un peu se condamner à perpétuité aussi, de vouloir répondre pourquoi. Ça aurait pu être une autre personne, ça aurait pu être un autre jour, et tout l'ensemble des décisions que vous aurez pu prendre. Et savoir que c'est des questions sans fin. Vous pourrez convoquer le monde dans son entier pour pouvoir y répondre.
Pour vous, il y a un avant et un après ou...
Ouais, ouais. Souvent, je me disais que... Je m'imaginais que si je sortais, j'irais dans les Pays Basques, dans l'arrière-pays, et que j'irais dans une forêt, aller crier. Finalement, cette idée a été évacuée. Toujours envie d'aller à la plage, mais bon. Plus de crier pour sortir ce que j'ai au fond du cœur, du ventre. J'ai senti qu'une tension que j'avais en moi, elle a été déchargée. Ça ne se mesure pas, ça ne se quantifie pas. C'est juste que arriver à vivre, d'avoir réussi à enlever une étiquette.
Une étiquette de...
Bien, d'assassin. Et j'ai eu la sensation vraiment, à ce moment-là, d'avoir pu faire la part des choses. D'avoir pu disjoindre les deux.
Qui vous étiez, ce que vous aviez fait?
Ce que j'avais fait. Avoir pu me défaire de ça, ça m'a libéré. La sensation vraiment d'être libéré.
Dans tout votre parcours, du coup, judiciaire et pénal, c'est la seule mesure qui s'est intéressée à vous en tant que personne et comment...
Non, parce qu'il y a plein de moments où des gens vous envisagent comme un être humain, vous traitent, ils font abstraction. Mais ce qu'il y avait de particulier avec le RDV, c'est qu'en touchant aux raisons de mon incarcération, ils ont réussi à me traiter comme un être humain. Et ça, ça n'a pas de prix. J'ai la sensation d'être libre alors que je suis incarcéré, parce que j'ai pu réintégrer la société en un sens. Je dis pas que je marche dans les rues, mais la sensation de pouvoir faire partie à nouveau du corps social, en étant passé par là, a aussi son importance.
Ça commence comme ça. Je nage dans le noir, peinard, bien au chaud dans mon cachot, souple comme le roseau, libre, ainsi que l'oiseau. Pas de limite, pas de fuite. Mais les murs arrivent, écrasent, écorchent, embrassent de force ma fine écorce, et partent comme ils sont venus, loin de ma peau nue. Et puis viennent encore contre mon petit corps, me serrent et mâchent ma chair. Faut que je m'arrache de cet enfer. Là-bas, de la lumière, tête la première, je fonce et m'enfonce dans les ronces. Et je crie, j'entre et je sors d'un ventre. Suis-je mort? Maman, je te demande pardon, mais tu marches sur mon cordon. Je me glisse dans une trappe, juste avant qu'on me rattrape. Je m'empare d'un bout de bois bizarre, et j'avance dans le couloir. Il fait tout noir. Là-bas, de la lumière, comme un phare. Tiens, le bout de bois, c'est une guitare. Et ils sont tous là, assis devant moi, comme par hasard. Ok, je vais vous raconter une histoire.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
Avoir pu me défaire de ça, ça m'a libéré. La sensation vraiment d'être libéré.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis le deuxième.
Vous êtes le deuxième, bonjour.
Ah, bonjour.
Vous vous appelez comment?
Manu. J'ai 53 ans.
Vous vous êtes incarcéré depuis quand?
Depuis 98.
Il vous reste combien de temps encore?
Il me reste 12 ans. J'arrive vers la fin.
Vous avez été incarcéré pour quel motif?
Pour viol. Ouais. En fait, le centre de ma démarche, c'était une façon pour moi de m'affranchir un petit peu de ce qui me pesait, de ce qui me faisait souffrir aussi, et de comprendre aussi, bien comprendre ce qu'elles ont pu vivre quand on est condamné. Mais on n'a aucune mesure des autres, finalement, de leur souffrance, de ce qu'ils peuvent subir au jour le jour. Il a fallu ça, il a fallu cette rencontre pour le comprendre. On se rend compte que la souffrance ne s'arrête pas. C'est quelque chose qui n'a pas de fin. Toute leur vie, ils souffriront.
Vous n'étiez pas rendu compte de cette souffrance avant, en fait?
Non. Une souffrance comme ça, je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à une souffrance, mais j'ai l'impression qu'on ne veut pas la voir. Il y a une sorte de déni de la souffrance. On sait que les personnes ont souffert, mais on ne veut pas s'en charger. Il y a une forme d'égoïsme, quelque part. On pense qu'on est les seuls à souffrir, on pense qu'on est les seuls à subir une peine, on pense que le monde extérieur est un monde presque idyllique, et puis on peut se remettre comme ça de choses. Évidemment que non. Et la réalité, c'est jeté à nous. C'est quelque chose qui... Ça a été vraiment un choc pour moi. Évidemment que la peine, on l'a... Il y a déjà un phénomène de honte, déjà, d'être en prison, d'être emprisonné, d'être mis au banc de la société. On s'accommode, évidemment, on fait bonne figure, parfois, on reste droit. Mais au fond de nous-mêmes, quand la porte de la cellule se ferme, eh ben, c'est la peine qui est là, qui nous pèse. Quelle que soit la démarche qu'on fasse, on est toujours, avant tout et pour tout, un prisonnier. Et on ne peut que souffrir. Donc ça, c'est vraiment une porte qui s'ouvre. Et il y a besoin de cette parole, il y a besoin de dire les choses. Et au fil du temps, au fil des séances, il y a eu 6 séances, bah, les choses se sont décantées et on a pu repartir apaisé, vraiment apaisé. Et on a réussi à s'embrasser à la dernière séance. Moi, je les vois toujours comme des personnes qui nous ont apporté vraiment une grande aide. Ouais. Et je ne pourrais pas oublier, ça c'est sûr.
Merci beaucoup en tout cas.
La dignité doit rester au cœur de la pénalité. La dignité de la victime, à qui l'État doit protection et une part de la réparation. La dignité du condamné, qui doit pouvoir réintégrer le corps social. Et cette dignité-là, elle est inscrite dans une peine tournée vers l'avenir. Pour la victime, pour la société, pour l'auteur. Platon lui-même disait déjà que celui qui punit judicieusement, punit en vue de l'avenir, de façon à ce que le coupable ne retombe pas dans l'injustice.
Bonjour.
Je vous en prie.
Je suis Olivia Mons et je suis responsable de la communication à France Victimes.
Anciennement l'INAVEM.
Anciennement l'INAVEM. C'est la Fédération nationale des associations d'aide aux victimes et de médiation. En 2010, l'INAVEM a vraiment souhaité mettre en œuvre des expériences de rencontres détenues victimes, donc une des formes de justice restaurative. Cette justice restaurative, elle nous vient de pratiques ancestrales, aussi bien dans le nord chez les Inuits que dans le sud Pacifique, avec les Maoris notamment. Et l'idée était vraiment de permettre aux personnes de restaurer quelque chose de la société et des liens sociaux pour faire en sorte que la société n'exclue pas totalement l'un de ses membres, mais qu'on puisse dialoguer et retrouver une forme de sérénité et d'apaisement. Retrouver l'humanité qui est dans la personne condamnée derrière l'acte monstrueux qui a pu être commis. C'est une rencontre, c'est un dialogue, c'est pas unilatéral, c'est toujours réciproque. Et ça doit toujours être réciproque, sinon ça ne fonctionne pas.
Est-ce qu'il y a des résultats dans les pays où la justice restaurative a été mise en place il y a bien plus longtemps ?
Alors, sur la récidive, sur la non-récidive, il y a des résultats au Québec, aux États-Unis et même en Europe. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que cette justice restaurative, elle n'a pas pour objectif la non-récidive. Parfois, on peut imaginer que le fait de se rencontrer, de mettre en présence des personnes victimes, des personnes condamnées, permette une prise de conscience extrêmement forte et que quand la personne pourrait imaginer réitérer des faits criminels, va se souvenir du regard de la victime qui lui a fait confiance à un moment donné et qui lui a dit des choses. Et c'est ça qu'on imagine qui va se passer d'un point de vue de la récidive. Mais ce n'est pas l'objectif de la justice restaurative. La justice restaurative, vraiment l'objectif, c'est un mieux-être des personnes, un apaisement. C'est un mouvement d'évolution de la justice d'État qui se dote d'une nouvelle solution, d'une nouvelle modalité d'aide aux victimes, c'est aussi une nouvelle modalité d'accompagnement des personnes condamnées.
dont on avait bien besoin, on peut dire.
Oui, la justice restaurative est très certainement, pour une grande part, l'avenir de la justice pénale.
Mesdames et messieurs, voilà, c'est ce qu'attendent les Français. Des solutions efficaces. Non pas le cynisme des manipulations et des accusations démagogiques. Des solutions efficaces. Non pas de la diversion, des solutions efficaces.
On a de la compagnie.
Ah, c'est le petit chat.
Oui, une coquine.
Je m'appelle Stéphanie, j'ai 40 ans. C'est le papa de mon fils qui était assassiné à son domicile, et mon fils était présent. Il avait 4 ans. Il a passé la nuit à côté du cadavre de son papa. Il y a eu un procès. Il a pris 20 ans de prison, et c'est ce qu'avait demandé le procureur. Donc, c'est vrai, de ce niveau-là, pour moi, la justice avait été rendue. Mais c'est vrai qu'en tant que victime, avec le recul, on n'a pas été écouté. Ça passe très vite, on n'a vraiment pas le temps de comprendre ce qui arrive, quoi. J'étais pas assez préparée pour dire ce que j'aurais voulu lui dire, par exemple, et je le ferai jamais, donc c'est vrai que c'est difficile. On est vraiment livrés à nous-mêmes. Que ce soit la justice, toute l'instruction, jamais rencontré le juge d'instruction, pardon, rien. Quand on m'a appris le décès, c'était au commissariat. Et on m'a laissé repartir comme ça avec mon fils, parce que du coup, il l'avait récupéré. Et donc, après l'audition, donc j'apprends tout ça, et plusieurs heures. Et bon, bah, rentrez chez vous, on vous rappellera. Et voilà.
Vous êtes rentrée seule avec votre fille chez vous?
Alors, j'ai pas pu rentrer. Je me suis arrêtée un McDo, Quick, je ne sais plus. Il a été joué. Et j'étais là, tout tourné autour de moi. Et j'ai appelé mes parents. Je sais pas où je suis, venez me chercher. Je sais même pas comment ils ont fait pour me retrouver, parce que je savais même pas où j'étais, en fait. On a dû me donner des coordonnées de... un papier, tenez, ça c'est l'aide aux victimes. Mais en fait, je me considérais pas comme victime. Pour moi, la victime, c'était mon fils. Mais c'est vrai que j'ai jamais tapé à la porte d'une association, ni... jusqu'à ce qu'on vienne me chercher, en fait. France Victime m'a contacté. Et bon, voilà, pendant 2 ans, on s'est contacté, vu régulièrement. C'était la première fois que je faisais quelque chose pour moi. Je me suis dit que j'avais rien à perdre, de toute façon, et qu'il fallait tenter. Et je pense qu'on s'est mutuellement aidés les uns les autres.
Ça vous a permis de comprendre quoi, vous, alors, du coup?
Que c'était pas forcément des monstres. J'ai ressenti à la fin beaucoup d'humanité quand même. C'est vrai que c'est bizarre, je peux pas l'expliquer, mais moi ça m'a fait un bien fou. Ça m'a enlevé un poids quand même. Jusqu'à ces rencontres en fait, j'y pensais tous les jours, constamment. Et suite à tout ça, j'ai pris du recul et c'est vrai que j'y pense plus. C'est toujours là, ça restera toujours là. Et en fait, je pense que jusqu'à ce que voilà, je fasse tout ça, j'avais peur d'oublier, en fait. Passer à autre chose, pour moi, c'était oublier. Et je voulais pas oublier, parce que... on peut pas oublier, de toute façon. Mais c'est vrai que je le prends autrement. J'ai envie d'avancer, je veux refermer, ça fait 10 ans, et je veux vraiment passer à autre chose. J'ai d'autres choses à vivre, et... aujourd'hui, je me sens vraiment différente. Il y a un poids, vraiment, qui est parti, c'est... ouais.
Faut que je reste entière.
Rester entière, recoller les morceaux, se reconstruire, pour les victimes et les détenus, c'est l'effet que l'on attend de la justice restaurative.
Oui, et si jusqu'à présent il n'y a eu que 3 sessions de rencontres détenues victimes, le décret d'application de la loi, qui est paru en mars dernier, va peut-être permettre que ces mesures sortent de la confidentialité. Une nouvelle session est d'ailleurs prévue à l'automne, à la maison centrale de Poissy.
Des nouvelles solutions et des nouvelles modalités, ce n'est pas que pour la justice qu'on en a besoin. On retourne avec Guy Vanctil dans la 13e Circo des Hauts-de-Seine.
Et ça repart !
Hop là ! Oui, notre dernier reportage sur la campagne de Monique Pinson-Charlot n'a semble-t-il pas plu à tout le monde, puisqu'un des représentants de la France insoumise a saisi le CSA. Et comme on n'est pas du genre à fuir nos responsabilités, nous allons suivre les règles des temps de parole jusqu'à l'absurde, avec un reportage regroupant 10 candidats que vous n'aviez pas entendus. Sauf que maintenant, nous sommes à une semaine du vote, avec une difficulté de plus. En plus du pluralisme, nous devons garantir la parfaite équité des prises de parole. Mais peut-être que ces contraintes techniques seront une occasion de faire un instantané de notre campagne législative au microscope.
Les Hauts-de-Seine, un balcon sur Paris, un département où l'avenir se conjugue au présent.
Nous voilà donc de retour dans la rue centrale de Bourg-la-Reine. J'ai rendez-vous au Café des Deux Gares avec Agnès Laffitte, la candidate Front National.
Pardon, monsieur. Madame Laffitte. Bonjour, excusez-moi, je suis un peu en retard.
Bah écoutez, alors comme je vous disais, je démarre dans la politique et je me suis lancée il y a peut-être 2 ans que je milite au sein du Front National. Parce qu'en fait, j'ai commencé à manifester dans les rues avec la Manif pour tous. Et je me suis rendu compte assez vite que finalement, ça avait ses limites. Manifester, c'était bien, mais d'abord, on n'était pas tellement entendu, et puis qu'il fallait aller au-delà, donc vers le FN, parce qu'il me semblait que c'était le parti qui défendait le mieux ma façon de voir la France, de défendre la culture française, de défendre la civilisation.
De lutter contre l'immigration.
De lutter contre l'immigration, pas seulement. Moi, je comprends parfaitement ces gens. Si je vivais dans leur misère, peut-être que j'aurais envie de venir en Occident. Et s'ils avaient les moyens de vivre correctement, je pense qu'ils n'auraient pas du tout envie de venir chez nous. Je pense que la mondialisation est en cause, dans la mesure où ça broie les États, ça broie les individus.
Donc, si je comprends bien, en plus de votre côté Manif pour tous, catholique, traditionnel, vous avez un côté un peu à gauche, critique du capitalisme, de la finance.
Oui, c'est vrai. Il y a un diagnostic commun. Après, les solutions ne sont pas nécessairement les mêmes, notamment sur la famille, sur la patrie, sur ce genre de choses. Mais oui, on verra.
Peut-être que le pape va vous faire voter à gauche un jour.
C'est ça, peut-être. J'ai déjà voté à gauche, là, en 81.
Je vais pouvoir filer. Je vous laisse parce que j'ai rendez-vous avec le candidat de Europe Écologie Les Verts.
Très bien. Bah, écoutez, bonne chance, bon courage.
Merci. Et ça repart.
1, 2, 3.
Voilà, je fais 10 mètres en sortant du café face à la mairie de Bourg-la-Reine.
1, 2, 3. Ça sera pas toi le chat.
Non mais c'est de la triche.
C'est bon.
Monsieur Delrieux, écoutez, je sors du café là où j'étais avec la candidate du Front National. Un premier tour de campagne législative, ça sera pas toi le chat.
Oui, c'est, y a un peu de ça. Là, on a 13 candidats sur la circonscription. Moi, je suis le candidat Europe Écologie Les Verts. Ça fait près de 20 ans que je suis militant sur Bourg-la-Reine. C'est ma 3e ou 4e candidature. On est très éclatés. La gauche est très éclatée.
C'est assez représentatif de ce qui se passe à l'échelon national.
On n'a pas l'exclusivité du tout candidatures multiples qui se réclament notamment de l'écologie.
Voilà, mais pourquoi justement cet éclatement ?
Les appareils ont eu du mal. Il y a des questions clairement d'ego personnel dans un certain nombre de divisions. Des gens se sont tendus la main à l'époque des présidentielles et d'autres n'ont pas voulu les prendre. La candidature de Jean-Luc Mélenchon est un peu excluante des autres composantes de la gauche. C'est compliqué de composer avec des partenaires qui ont cette volonté hégémonique, qui a un peu tendance à vouloir tenir la gauche comme elle tient visiblement son organisation d'une main de fer dans un gant de velours, pas très épais d'ailleurs.
Merci beaucoup. Je vous vois filer parce que je dois aller trouver un autre candidat sans étiquette, Laurent Farcy-Briand.
Sans étiquette du tout ?
Non.
Ah, alors, je ne le connais pas.
Bon, ben, on va aller voir ça. Alors.
Bonne journée.
Hello and welcome to the Conseil supérieur de l'audiovisuel.
C'est tout le quartier quadrillé là, c'est un jour de semaine comme ça, pour tracter.
Le samedi, c'est beaucoup plus animé, on va dire. Ouais. C'est normal.
Ah, voilà, c'est l'entrée du marché. D'accord.
Voilà, donc.
Bonjour, France Inter.
C'est Nicolas, candidat pour le Parti chrétien-démocrate pour œuvrer à la recomposition de la droite et rassembler à la fois les chrétiens-démocrates, les libéraux et les gaullistes qui se reconnaissent plus forcément dans les républicains aujourd'hui.
Comment se présente cette nouvelle présidence Macron? Sous quels auspices vous la voyez?
Moi, je suis très inquiet.
Un homme de droite inquiet de Macron, alors que tout, moi, j'ai vu que des gens de gauche inquiets de Macron jusqu'à maintenant.
Oui, mais parce que M. Macron a profité effectivement de cette volonté de recomposition à la fois à droite et à gauche pour créer effectivement un parti qui se veut un parti unique. Et donc, il me semble nécessaire de proposer des contre-pouvoirs à l'Assemblée nationale pour des valeurs de droite en ce qui me concerne, mais également pour d'autres valeurs plutôt à gauche pour les autres partis.
Parce que là, je voyais dans la rue à côté, il y a Monique Pinson-Charlot contre la finance. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus, vous ne vous retrouvez pas là.
À la limite, je suis plus d'accord avec Monique Pinson-Charlot qu'avec M. Macron. Le Parti chrétien-démocrate défend des valeurs humaines et veut remettre l'homme au cœur de l'économie et de la société, qui est plutôt l'inverse du programme libéral de M. Macron, qui tend vers une ubérisation de la société.
Et ça repart ! Hop là !
Bienvenue sur Télé Rouge IC. Nous sommes aujourd'hui avec Maurice Kuckermann, secrétaire général du Parti communiste révolutionnaire de France.
Chers amis et chers camarades, nous avons des candidatures de notre parti, le Parti communiste révolutionnaire de France. Ces candidatures, en particulier 13e circonscription des Hauts-de-Seine, elles doivent permettre d'affirmer la nécessité de construire un parti communiste digne de ce nom, qui affronte le capitalisme et qui prépare les travailleurs à l'affrontement avec la bourgeoisie pour réaliser le socialisme-communisme. Voilà, c'est à vous maintenant de retrousser les manches. Il faut convaincre chacun qu'avec Macron, il n'y a rien à attendre. En faisant que les candidats contre le capitalisme et l'Union européenne et pour le socialisme et le communisme, les candidats du Parti communiste révolutionnaire de France sont les candidats qui sont susceptibles d'apporter une perspective pour l'avenir. Je vous remercie de votre attention.
Merci. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Vous étiez sur Télé Rouge, IC. Vous pouvez retrouver notre chaîne sur le site du Parti communiste révolutionnaire de France. Merci, à bientôt.
Hop! Hop! Oui! Kikou! 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 Kikou!
Après les authentiques communistes partisans de la révolution prolétarienne, suite de notre inventaire de candidats en lice pour les législatives dans la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, on reprend le RER, on quitte Bourg-la-Reine pour aller à Robinson avec un candidat dont j'ai pas encore tout à fait bien saisi l'orientation.
Et ça repart. Hop là.
Merci à vous.
Au revoir.
Bonne chance pour la suite.
Je vous dérange, bonjour.
Non, merci.
Vous étiez un peu de discussion avec un potentiel électeur.
Moi, c'est Laurent Farcy-Briand, j'ai 44 ans. Moi, j'ai connu la politique il y a 20 ans, mais je l'ai quitté à l'âge de 22 ans. Et j'ai vécu à l'étranger, je fais une carrière dans le privé, dans l'asset management, la gestion d'actifs. Donc mes clients, c'était les caisses de retraite françaises, la Banque de France. J'étais à Londres, donc c'était pas très très loin. Et après avoir connu la politique, en fait, Macron m'a donné envie de revenir. Donc j'ai fait le choix de revenir et de faire de la politique autrement.
Mais alors, attendez, vous n'êtes pas un candidat en marche là?
Non, non, je suis pas en marche du tout. Mais en fait, pour moi, Macron, c'est une phrase simple. C'est recréer les conditions pour que chacun trouve son destin. Moi, c'est ce qui a fait que je me suis engagé comme un fou pour la présidentielle.
J'ai pas compris pourquoi vous n'êtes pas sur la campagne Macron cette fois-ci.
Parce que le succès de Macron, ça a été ça. C'est un mouvement, vous voyez, quelque chose qui est libre et qui agrège les talents. Après, peu avant le premier tour, En Marche est redevenu une espèce de parti classique avec les mêmes comportements de contrôle du groupe, où on donne à croire que la politique c'est un métier, etc. Et en fait, on a arrêté d'écouter les gens.
Et alors, du coup, c'est presque historique quand même, parce que vous êtes un des premiers dissidents du macronisme.
C'est amusant parce qu'on n'a pas arrêté de me dire ça toute la journée et je me sens pas dissident. Je suis peut-être dissident de la démarche du parti. Oui, oui, mais j'ai rejoint une vision. Et surtout, la vision, c'est des mots.
Et là, votre slogan, c'est ?
C'est « Ensemble pour que ça marche ». Donc ça, c'est la continuité pour aller bien plus loin. Ensemble pour que ça marche. C'est la phrase de Mandela qui disait « Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Je pense qu'il y a une vraie respiration, il faut s'en saisir.
Mais bon, donnez-moi un track.
Bon, je vous donne deux.
Parce que là, maintenant, j'ai rendez-vous. Maintenant, je dois aller voir les Insoumis et je dois appeler aussi le Parti Socialiste.
Partie de campagne dans les Hauts-de-Seine, 13e circonscription.
Allô,
oui. Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Je cherchais à joindre Jérôme Yanès, s'il vous plaît.
Oui, je suis Jérôme Yanès, j'ai 32 ans, je suis candidat aux élections à Antony pour la Reine chez Mabriessot. Je suis professeur de technologie dans un collège de banlieue. C'est la première fois que je me présente à une élection tout court.
D'accord. Votre parti, c'est l'UPR, c'est-à-dire le parti d'Asselineau.
C'est ça, François Asselineau. Aujourd'hui, à l'UPR, on a 28 000 adhérents, 574 candidats, c'est-à-dire que nous sommes le parti politique qui présente le plus de candidats à cette élection. J'ajouterais qu'on a 83 000 militants dans la circonscription. Et sur ces 83 militants, on a 12 à 15 militants qui sont très actifs, ce qui montre bien que nos militants à l'UPR sont très motivés et ont réellement l'envie de faire changer les choses. J'ai par exemple dans mon équipe de militants des gens de gauche, des gens de droite, et nous avons ensemble un projet en lequel je me retrouve totalement et que les auditeurs peuvent retrouver sur upr.fr.
Vous n'êtes pas le premier à me dire ni gauche ni droite. Rassurez-moi, vous n'êtes pas macroniste.
Nous sommes clairement dans l'opposition à la politique d'Emmanuel Macron. Et nous sommes malheureusement assez pessimistes quant à ce qu'il va faire pour la France.
Très bien, je vous remercie beaucoup.
D'accord, donc je peux espérer une vingtaine de secondes?
Ah, un peu plus même.
Un peu plus?
Mais il faut que vous soyez tous calibrés pareil.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous, au revoir.
Et ça repart!
Comme un brick qui court, on continue notre inventaire des candidats en lice pour être en règle avec le CSA résultat. Les uns après les autres, à temps égal, tous les candidats dans cette circonscription. Ah d'ailleurs, j'en vois qui tracte là. Bonjour.
Bonjour.
Vous tractez pour les législatives, mais c'est pour...
Oui. En marche, en marche, en marche.
Alors je peux pas vous interviewer.
Ah bon, pourquoi?
À cause du temps de parole du CSA. J'ai déjà interviewé la semaine dernière En Marche.
Ah bon?
Et donc là, je suis en train de rattraper avec les autres. J'ai rendez-vous avec un socialiste en face.
Socialiste en face?
Ouais.
Il y a encore des socialistes en face.
Donc désolé, messieurs. Bonne journée.
Bienvenido al Consejo Superior del Audiovisual. Enseguida atenderemos su llamada.
Alors, ben, je suis Benjamin Lanier et je suis candidat pour les élections législatives pour le Parti Socialiste, avec également le PRG et l'UDE qui me soutiennent. Voilà.
Est-ce que ça fait beaucoup de monde?
Oh ben écoutez, ça fait suffisamment de monde pour faire une campagne à la fois vivante et conviviale. Voilà. Donc il ne faut pas préjuger du résultat. Et c'est justement là tout l'enjeu de cette campagne, puisqu'on a un président de la République qui a l'air de vouloir gouverner soit à gauche, soit à droite, en fonction du vent et du positionnement des Français. Moi, je propose qu'il y ait une majorité de gauche à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait une politique de gauche. Voilà.
Est-ce que les scores du PS étaient dans la moyenne nationale ici, dans la circonscription ou...
Alors il était légèrement supérieur, bon pas non plus de beaucoup, mais d'un point au-dessus...
C'est dans les 7, c'est ça?
7, 7,5, oui, sur l'ensemble de la circonscription. Donc ce qui veut dire qu'il y a quand même, malgré tout, un attachement un peu plus important qu'au niveau national pour le Parti Socialiste. Après, moi, mon objectif, il est clair, c'est 12,5% des inscrits pour pouvoir être au second tour. Et là, je serai le seul qui aura une réserve de voix et donc qui peut gagner sur la circonscription.
Je vais prendre votre acte quand même. J'ai rendez-vous avec la France Insoumise.
D'accord.
J'ai vu le Front National, j'ai vu l'Europe Écologie Les Verts, les Chrétiens Démocrates. J'attends les nouvelles de Lutte Ouvrière. C'est juste les deux parties que j'ai pas encore réussi à les joindre. C'est des listes un peu bizarres.
Allô, oui.
Allô, oui, Tristan Achache.
Oui, c'est ça. Donc, je m'appelle Tristan Achache, donc j'ai 21 ans. Je suis étudiant donc, à l'EPFSO, une école d'ingénieur, et également donc, candidat à Allons Ensemble, donc uniquement géré par des jeunes de 18 à 25 ans.
C'est un parti où on peut être que jusqu'à 25 ans.
Voilà. Après, on a le côté transpartisan. On était le premier parti à être ni de gauche ni de droite. Et après, on a comme troisième point l'aspect participatif. Renforcer le lien des citoyens avec le politique.
Mais là, dites-moi, vous êtes donc un parti qui prône la jeunesse, ni gauche ni droite, ouais. Et participatif. Ça me rappelle quelque chose, vous ne seriez pas des crypto-macronistes?
Alors oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous reproche souvent. Alors, certes, il y a des similarités, on ne peut pas le nier, mais je trouve qu'il y a quand même l'aspect jeune qui est le but principal de notre parti. Okay, du coup, je me suis perdu dans mes mots.
Ça arrive, ouais. Vous avez fait des meetings, des tractages, des rencontres?
Alors, j'ai été en partiel pendant une semaine. Du coup, vous avouez que j'ai loupé une semaine de campagne, ce qui n'est pas négligeable. Enfin, je prévois de tracter plus, mais je fais comme je peux avec le temps que j'ai.
Bon, bah, bon courage, bonne campagne et bon partiel, alors.
Merci beaucoup, alors.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir, monsieur.
Après Bourg-la-Reine, après Robinson, Nous voici dans un autre coin de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, toujours à faire l'inventaire et le tour de chacun des 13 candidats de la 13e circonscription, selon les règles d'absolu équité, d'absolu pluralisme du CSA.
Et puis nous sommes arrivés là, ici, à Châtenay-Malabry.
Pour être dans les clous, comme un bruit qui court aux frontières de l'absurde, mais qui est néanmoins une très bonne occasion de faire une photographie à peu près exhaustive à l'échelle d'une circonscription, qui n'est pas sans rappeler ce qui est en train de se passer à l'échelle nationale.
Bonjour, il va être donné suite à votre appel dans quelques instants.
Oui, bonjour. Bah, écoutez, bah, moi, je suis Franck Rollo, hein. Donc, bah oui, je suis militant de lutte ouvrière. Et donc, je suis candidat dans la 13e circonscription des Hauts-de-Seine. Je suis aussi, donc, ouvrier mécanicien. Donc, je fais la maintenance sur les rames du RER. Nous, on pense que gauche et droite, tout ça, de façon meilleure. C'est maintenant, c'est le même camp, quoi. Hein. Ils se rejoignent pour servir le grand patronat. Nous, on pense que de l'argent, il y en a, donc des milliards de profits qui sont réalisés au CAC 40. Donc, nous, on pense qu'une partie, en fin de compte, devrait déjà revenir pour les travailleurs pour avoir, en fin de compte, un salaire au minimum, mais 1 800 euros aujourd'hui, quoi. Notre programme, c'est donc interdire, en fin de compte, les licenciements hein, dans les grands groupes qui font des profits pour maintenir l'emploi et les salaires.
Et c'est votre première campagne aussi ou pas?
Non, pas du tout. J'étais la dernière fois candidat aussi hein, dans cette circonscription.
Dernière législative, vous avez fait combien sur votre liste?
Alors, effectivement, donc la dernière fois, donc j'avais fait 0,27%.
Ouais.
Oui, ça fait pas beaucoup, quoi. Hein.
Ouais. Bon, bah écoutez, on va voir. Alors, bonne campagne.
Merci beaucoup. Et
au revoir.
Au revoir.
Et ça repart!
Me voilà d'un côté la barre d'immeuble, de l'autre les petits sous-bois, l'école élémentaire et le candidat France Insoumise qui est devant moi, Nicolas Lagie. Bonjour! Enchanté, Guy Vanctil.
Nicolas Lagie. J'ai 26 ans, je suis ingénieur dans le bâtiment. J'avais jamais milité pour aucun parti auparavant, jusqu'à ce que vraiment je tombe sur le programme de la France Insoumise, et puis là j'ai été particulièrement séduit par le contenu. Oui, non, nous on a un programme de gauche très complet, social, écologique, qui reprend vraiment des idées très concrètes, comme 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050, contre la finance pour un partage plus juste des richesses, pour la santé, une sécurité sociale intégrale. C'est vraiment un programme complet et très réfléchi. On a eu une belle dynamique avec l'élection présidentielle, on fait de notre mieux pour la préserver. Voilà, avec l'élan que Jean-Luc Mélenchon nous a donné. C'est pour un avenir plus... qui prévoit la vie de tout le monde. Non. Je ne sais pas comment en dire, mais là... un avenir commun, non, tout simplement. C'est respectueux de l'environnement et des droits de chacun, des intérêts humains et de la biodiversité.
Alors, ce soir, c'est quoi le meeting? Juste après, on finit. Parce qu'après, moi, j'ai le temps de parole. Maintenant que la France Insoumise a lancé le CSA, maintenant, il faut que je sois dans les clous. Non, je ne voudrais pas avoir une nouvelle lettre. Ils me disent, attention, vous n'avez pas...
Non, je pourrais que inciter les gens à se pencher sur notre programme et d'après, évidemment, voter pour nous.
Et ça repart, wopala! Dans une java, on oublie ses tracas. Et ça repart, wopala! Deux yeux rieurs font battre notre cœur dans un refrain câlin. Un tendre espoir nous fait aimer la vie, c'est le bonheur soudain. Profitons-en, n'entendons pas demain. Et ça repart, wopala! Dans une java blottie entre les bras. Et ça repart, wopala! C'est un beau jour où refleurit l'amour dans un refrain joyeux. On est heureux, on devient amoureux. Et ça repart. Dans une java, oui, c'est toujours comme ça.
Voilà, j'espère qu'on sera dans les clous pour cette fois-ci. En tout cas, rassurez-vous, chers auditeurs, nous ne retournerons pas dans la 13e circonscription des Hauts-de-Seine la semaine prochaine, puisque ça sera la veille du vote, et donc silence radio.
C'était comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site de France Inter, la liste de tous les candidats de la 13e circo des Hauts-de-Seine et l'article du Monde Diplo sur la justice restaurative dans le numéro de décembre dernier. Laissez-nous des messages, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux que le bruit court. Juste après les infos, prenez les routes de la musique avec André Manoukian. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.